de vous proposer cette matinée au sommet de la philosophie avec Hegel et de nous avoir donné des supports aussi précis et technologiques, puisqu'ils sont à disposition sous forme de papier ou sous forme numérique. Voilà, c'est le mois de décembre, c'est une période très chargée pour chacun. Donc un immense merci à Mathieu d'avoir trouvé l'énergie de préparer tout cela et de nous proposer devant une assemblée, je crois, qui lui fait honneur et qui fait honneur aux matinées philosophiques. Donc merci à vous tous d'être là ce matin. Et merci à Sabine. Merci à Sabine d'avoir réussi à manier le préfet pour que les trois quarts aient pu venir jusqu'ici en période de Vigipirate. C'était un vrai exploit, donc je vous propose aussi de l'applaudir.
Bonjour à tous. Nous avons commencé par être rattrapés par l'effectivité. Les problèmes de papier et de chaise étant réglés, nous allons pouvoir commencer. Alors, le droit ne peut-il en référer qu'au droit ? J'ai une double ambition pour cette matinée, en vous remerciant bien sûr d'être venus présents si nombreux, les élèves bien sûr, mais les anciens aussi que j'ai plaisir à recroiser, les normaliens, tous les élèves des grandes écoles, les amis, etc. J'ai... Les parents et les grands-parents, et les petites sœurs, et tout le monde. J'ai deux ambitions donc. La première, pour ceux qui n'auraient pas eu encore l'occasion de se frotter au texte hegélien, de vous y introduire par la porte du droit. C'est pas la seule manière d'entrer dans la pensée hegélienne, mais elle a son efficacité, et en l'occurrence, dans la mesure où les Camus sont intéressés par cette dimension de la philosophie, eh bien, c'est l'occasion de faire d'une pierre deux coups. L'autre ambition, elle est plus précise, puisque j'aimerais, à l'intérieur de cette réflexion hegélienne sur le droit, poser la question de la nature et des conséquences du formalisme, et plus précisément, comprendre, alors c'est un retournement qui est un peu bizarre présenté comme ça, mais qui est pourtant fréquent et même historiquement illustré, comprendre comment c'est avec de bonnes intentions qu'on peut faire de la très mauvaise politique. Et pire encore, comment c'est avec tout un tas de précautions formelles, du point de vue juridique, qu'on peut aboutir à la terreur, non seulement avec un petit T, parce que cette attitude est toujours susceptible de revenir, mais aussi avec un grand T, puisque l'épisode de référence à la fois pour Hegel et pour les illustrations que je vous donnerai sera justement celui de cette période noire, s'il en est, durant la Révolution française. Alors, pour comprendre ce double ancrage, cette double ambition, pardon, je vais commencer par un petit extrait, extrait du film La Révolution française de Robert Enrico, où justement on assiste à une prise de conscience de Robespierre.
Thank you. ce petit extrait qui contient en fait non seulement des mots historiquement prononcés par Robespierre, en tout cas recomposés à partir de ses discours, et qui contiennent en petit tout ce que je vais expliquer avec Hegel, ou à partir de Hegel en grand. Autrement dit, si la vertu doit triompher, il faut qu'elle s'accompagne de la terreur, parce que la vertu est sans faille. Alors comment raccorder ça, ce qui peut paraître un discours essentiellement moral, à la politique? Eh bien, par le droit, qui va être notre meilleure porte d'entrée dans cette question du formalisme. Commençons justement par une définition toute simple du droit. Je repars du littré ici. C'est l'ensemble des règles qui régissent la conduite de l'homme en société. Vous voyez que notre distinction devenue familière du droit et de la morale est assez passée sous silence, dans la mesure où les deux se contaminent réciproquement. En tout cas, ce qui ressort immédiatement, c'est que pour vivre ensemble en société, ces règles doivent prendre en compte la totalité des gens qui en font partie, donc doivent être, d'un certain point de vue, universelles. Voilà notre premier critère du formalisme. Il n'y a loi que si la forme de l'universalité est prise en compte. Et l'on peut ajouter aussitôt, il n'y aura droit et loi universelles qui permettront aux hommes de vivre ensemble que si ces lois sont cohérentes les unes avec les autres. Ces deux critères qu'on va retrouver chez Kant, je vais forcément vous en parler un peu parce que Hegel le commande beaucoup sur cette question du formalisme, en fait sont repris par Kant de son propre aveu comme ce qui est déjà là dans les mœurs, qu'il n'y a qu'à relever. Et c'est ainsi que, d'une façon plus précise encore, Kant définit le droit de la manière suivante dans l'introduction à la doctrine du droit. L'ensemble des conditions sous lesquelles l'arbitre de l'un peut être uni à l'arbitre de l'autre selon une loi universelle de liberté. L'ensemble des conditions sous lesquelles l'arbitre de l'un peut être uni à l'arbitre de l'autre selon une loi universelle de liberté. Alors, on y ajoute la notion d'arbitre. Bon, chez Kant, ça se distingue de l'autonomie. Je ne rentre pas dans ce détail-là pour l'instant. Et en tout cas, on assume ce critère de l'universalité. Autrement dit, le formalisme s'explicite et il ne peut y avoir droit que si un formalisme est bien là, explicite, surveillé et critère absolu de la mise en place du droit. Et pour nous, ce terme est finalement relativement ambigu, parce qu'on parlera ici ou là d'une attitude formelle négativement comme quelque chose de rigide, de raide, d'une rigueur quasi cadavérique et inhumaine. Et de l'autre, le formalisme, c'est aussi, comme dans cette définition kantienne, ce qui nous protège. Car les formes sont ce par quoi la subjectivité ne vient pas commander arbitrairement à autrui ce qui nous arrangerait. La forme de la loi, les règlements, quelle que soit leur échelle, sont là justement pour éviter que l'un considère que son désir a plus d'importance que celui de l'autre. Alors, ceci, très vite, permet de mettre en place un premier paradoxe. Mes cagneux sont habitués, plutôt les étudiants des filières littéraires sont habitués à ce genre de présentation. Pour ceux qui reviendraient à l'occasion de cette matinée à la philosophie, donc l'idée étant toujours de partir d'une difficulté présentée sous forme de tension et d'en tirer une question, et vous allez voir que les questions elles-mêmes vont s'étoffer au fur et à mesure. Alors il y en aura trois durant cette matinée, c'est un peu ambitieux mais c'est difficile pour comprendre Hegel de ne pas les embrasser toutes les trois. Premier avantage donc, et début d'une première tension du formalisme, c'est que c'est une garantie logique. C'est-à-dire que non seulement on a une garantie, mais on peut s'appuyer sur ce qui nous unit à plus grande échelle encore que l'histoire du droit ou l'histoire des hommes, sur le fondement même de la langue et du langage. Alors bien sûr, il pourrait y avoir une réflexion sur les fondements de la logique, mais disons que, voilà, communément, les règles les plus classiques de la logique sont celles qui sont les plus globalement reconnues partout et en tout temps, et notamment celles de la non-contradiction que j'indiquais tout à l'heure. Donc, non seulement le droit cherche des garanties formelles, mais il va même les chercher du côté de la logique, ce qui serait évidemment pour nous une protection éminemment solide. Et pourtant, et vous le sentez à la déclaration de Robespierre que je vous ai entendre tout à l'heure, on a beau chercher à surveiller la rédaction des lois et leur application par des critères formels. Première évidence, ça n'empêche pas la variation des droits et dans le temps et dans l'espace. Autrement dit, cette garantie logique qui est censée nous faire échapper à l'arbitraire, à la particularité, n'empêche pas un relativisme juridique qui est aussi confortable quand on veut échapper à la loi que très inconfortable quand on voudrait s'appuyer sur la loi pour savoir ce qui est juste, mais qui de fait est bien là. Ensuite, plus délicat encore, il y a des droits qui sont apparemment formellement parfaits et qui pourtant conduisent à ce que la plupart reconnaît comme étant des maux politiques, pas forcément vécus comme tels sur le moment, mais finalement révélés comme tels par l'histoire. Alors, je le cite une fois et je ne le citerai plus, je pense ici à Kelsen, donc d'abord grand historien du droit, enfin juriste puis historien du droit, et puis par extension, philosophe du droit, qui en fait a tellement voulu insister sur ce critère du formalisme juridique qu'il s'est aperçu que la grande majorité des droits qui ont pu, en tout cas, s'exprimer pendant un certain temps, respectent ce critère absolu de cohérence formelle. Et donc, de son propre aveu, le critère que nous qualifierions de moralité n'intervient plus directement, en tout cas. Il inspire peut-être certaines de ces lois, mais dans la mesure où, de toute façon, il faudra veiller absolument à leur cohérence, en dernier lieu, c'est ce critère qui comptera. D'où ces conclusions restées célèbres pour leur scandale, que les droits fascistes et nazis étaient des droits au même titre que notre droit à nous ou le droit de l'Allemagne qui précédait l'Allemagne nazie. Et donc, d'un certain point de vue, le génocide, les tueries, les guerres et tout ce qu'on peut estimer de barbare avaient sa légalité. Certes contraire à la légalité d'autres pays ou du même pays à d'autres époques, mais sur le moment avait sa légalité. Pourquoi ? Parce que le critère formel du droit était respecté. Pourquoi ? Parce que les lois nazies étaient érigées sous réserve du respect d'une procédure constitutionnelle elle-même modifiée à l'occasion d'une élection par le peuple. Donc, sur le plan formel, tout allait bien. Alors, vous voyez, et c'est là notre première difficulté, c'est que la garantie logique du formalisme, l'universalité ou la non-contradiction, parfois identique, parfois distingué, est censé nous protéger de beaucoup de choses, et il semble, dans les faits, que ça ne nous protège pas tout le temps, ou pas systématiquement, ou à tout le moins pas de tout. D'où ma première question, qui se présente de deux façons. On se demandera premièrement si le formalisme juridique favorise le mal politique, on pourrait aller jusque-là, ou peut-être plus précisément, s'il crée son propre mal politique. C'est-à-dire, soit on pourrait imaginer que la barbarie profite du prétexte du formalisme juridique pour s'exprimer, ce qu'elle voulait faire de toute façon, soit, et ce sera plutôt le cas de Robespierre, selon moi, le formalisme créerait avec lui ses propres difficultés jusqu'au mal politique le plus extrême. Alors, cette première difficulté qui est déjà bien difficile, bien énorme, pardon, et qui va pas mal nous occuper, n'est pas la seule, parce que on pourrait très bien dire, et Kelsen n'a pas hésité à se faire à lui-même cette objection, que les maux politiques et moraux qui ont suivi ce formalisme, ou en tout cas ce respect apparent du formalisme, étaient peut-être nés tout simplement d'un défaut de formalisme. Que, apparemment, les lois ont l'air cohérentes et bien faites, mais pour qui saurait les regarder avec attention, on peut déceler ici ou là quelques contradictions, quelques difficultés dans leur interprétation. Et, d'un certain point de vue, l'histoire de la jurisprudence fait partie de ce débat autour des lois. Jusqu'à parfois corriger les lois, au moins en termes de référence de jurisprudence, mais on peut toujours estimer que c'est parce que le formalisme est imparfait que les maux politiques et moraux que j'indiquais tout à l'heure, on peut survenir. Or, ce que on peut objecter à cela, c'est que Kelsen insiste pour dire « mais non, même le droit nazi était formellement parfait ». Donc on ne peut même pas se cacher derrière une erreur ou une difficulté qui serait humaine et récurrente à effectuer un formalisme le plus parfait possible. C'est pas si difficile que ça d'être cohérent quand le nombre de propositions est faible. Évidemment, vu la taille des livres de loi et leur multiplication, il devient de plus en plus compliqué de vérifier qu'on n'est pas en train d'entrer, au moins ponctuellement, en contradiction avec d'autres lois. Mais Kelsen a passé ça au crible et de façon très détaillée, et pour lui, maintenant, ces droits étaient, les droits que nous qualifions, nous, de barbares, étaient formellement parfaits. D'où une question plus précise, qui vient préciser les deux précédentes. Quel formalisme doit-on adopter pour échapper au mal politique ? C'est-à-dire qu'il va peut-être falloir distinguer déjà les formalismes apparents des véritables formalismes, et à l'intérieur de ces formalismes, puisque on continue d'y tenir comme à une garantie, de vérifier si certains ont bien enregistré tous les critères du formalisme, il y en a peut-être plus que les deux que j'indiquais tout à l'heure, et dans ce cas-là, et ce sera l'objet de ma conclusion, indiquer quelles seraient les conditions d'un bon formalisme. On verra qu'il y en aura beaucoup plus que l'universalité et la cohérence. Enfin, il y a une dernière difficulté. Elle est proche des deux précédentes, mais elle envisage les choses d'une manière dynamique, et ce serait difficile de parler de Hegel sans faire cela. C'est que, là encore, l'objection de l'erreur continue à fonctionner. On peut toujours dire « oui, mais avant, on maniait mal les outils du formalisme, et finalement, avec l'histoire, on va apprendre à mieux les manier. » Sauf que cette idée d'un apprentissage au fur et à mesure de l'histoire des bons critères semble, là encore, rencontrer des difficultés en observant l'histoire elle-même, au sens où l'histoire du formalisme pose elle-même des problèmes. Le simple fait de dire que des critères doivent être logiques et intemporels et qu'ils doivent être dans le temps est déjà une difficulté en soi. Mais on peut ajouter que chaque fois qu'on a voulu mettre en place des critères améliorés, plus précis, d'élaborer des codes constitutionnels plus fins, des procédures pénales plus rigoureuses, etc., on n'a pas totalement échappé aux difficultés que j'évoquais tout à l'heure. Le champion du formalisme et de la rigueur toute kantienne, enfin pour lui c'est rousseauiste, mais ça revient même, c'est Robespierre. Hein. C'est l'homme sans passion, pour le coup, l'homme sourcilleux. C'est l'incarnation d'une rigueur logique. Ceci ne l'a pas protégé des erreurs que lui-même espérait éviter. Et on se situe de surcroît dans le cadre d'une refonte totale du droit. Donc on pouvait dire de tout remettre à plat va être l'occasion d'éviter ses erreurs et même ses fautes. En réalité, il n'en est rien, en tout cas à cette époque-là. D'où ma toute dernière question. Le formalisme légal s'accompagne-t-il nécessairement d'un mal ? C'est-à-dire, est-ce inévitable ou est-ce qu'un apprentissage par l'histoire des critères du bon formalisme nous permettrait d'y échapper. Alors je vous ai indiqué d'emblée, pour, surtout pour ceux qui découvriraient Hegel à l'occasion de cette matinée, les trois thèses que je voudrais développer ce matin, comme ça on sera tous au clair sur mes ambitions. Première chose, et là c'est surtout pour les cagneux, la notion du droit est très élargie par rapport à la notion habituelle chez Hegel, puisque vous allez voir qu'on va parler autant d'éthique et de politique, et dans le discours de Robespierre, c'est d'ailleurs tout le temps mêlé. Vous avez des auteurs qui le distinguent, et aujourd'hui, dans les définitions du dictionnaire, on a plutôt tendance à les distinguer, mais vous avez vu que la définition du littré, qui, il est vrai, est un peu plus ancienne, se prête mal à ce genre de distinction, en tout cas à première lecture. Donc telle sera la première thèse. Deuxième thèse, alors on verra que, ayant élargi ce concept du droit, on pourra procéder à une critique du formalisme, dont Kant sera le symptôme le plus évident, en vue de bâtir un droit plus parfait. Et dès lors, à partir de là, ce sera à la toute fin de cette intervention, on pourra envisager les critères d'un bon formalisme. Donc je m'empresse d'emblée de briser un a priori ou une lecture un peu trop rapide de Hegel, qui consiste à dire que Hegel étant un critique très sévère de Kant, et c'est vrai, il l'est très souvent, que Hegel ayant fait la critique du formalisme kantien dans la deuxième partie des principes de la philosophie du droit, il rejetterait tout formalisme. Comme de surcroît, Hegel a des textes très durs à l'égard du formalisme, cette fois dans l'écriture des mathématiques et des sciences au début de la phénoménologie, on a vite fait de dire Kant c'est le formalisme, Hegel c'est l'adversaire du formalisme. En fait, c'est beaucoup plus compliqué que ça, parce que l'État étant l'acmé de l'esprit objectif, et l'État ne disparaissant pas dans le développement de l'esprit absolu, la loi reste extrêmement présente, et ce sont des lois qui respectent des critères logiques. Donc il faut vraiment se défaire de cette idée qu'en critiquant Kant, on critiquerait toute forme d'approche logique des lois, et qu'on les laisserait à une sorte de bon vouloir dialectique de l'histoire sans qu'on les comprenne par les catégories habituelles de la logique. Vous allez voir que finalement, il n'en est rien. Alors comme d'habitude en philosophie, il faut être patient. Donc non seulement je vous ai demandé d'être patient durant cette introduction pour voir les problèmes se mettre en place, mais vous allez encore devoir être patient durant les deux premières parties, puisque c'est tout le cadre dont j'ai besoin pour arriver à la critique du formalisme, et il me faut élaborer, même si c'est rapide, quelques rappels sur la bonne vieille morale kantienne, qui fait couler tant d'encre dans les copies des cagneux. Alors, je la rappelle, ou je vous y introduis si certains d'entre vous ne la connaissaient pas, et je vais essayer de la ramener à quatre points principaux. Alors c'est un peu schématique, mais ce sera suffisant et pour ne pas dire de bêtises sur Kant et pour ensuite travailler dessus à partir de Hegel. Premièrement, il n'y a pas plus important que la morale pour Kant, ce qui le rend évidemment très séduisant, en plus avec ce mot déjà connoté en son temps, mais plus encore aujourd'hui. Alors, la peut-être bonne nouvelle dans cette affirmation, c'est que la morale, c'est autant l'éthique que le droit, hein, puisque vous avez les fondements de la métaphysique des mœurs, donc la morale, et puis derrière, la doctrine de la vertu, éthique, et la doctrine du droit, donc qui s'intéresse aux lois telles que l'État les met en place. Pourquoi est-ce que la morale, c'est la priorité dans l'existence? Eh bien, je peux vous lire cette expression, cette proposition de la critique de la raison pure. Quel usage pourrions-nous faire de notre entendement, même par rapport à l'expérience, si nous ne nous proposons pas des fins? Or, les fins suprêmes sont celles de la moralité, et il n'y a que la raison pure qui puisse nous les faire connaître. En définitive, tout intérêt est pratique. Tout intérêt, c'est-à-dire, parmi les choses qui motivent nos facultés, il y a trois formes d'intérêt que Kant distingue. L'intérêt sensible, c'est quand on a faim. L'intérêt intellectuel, c'est quand on veut savoir, ou intérêt théorique. Et l'intérêt pratique, c'est quand on se demande ce qu'on veut faire, ce qu'on doit faire, si c'est bien, si c'est mal. Or, ces trois motivations sont finalement subordonnées au sens où les deux premières, sensibles et théoriques, sont subordonnées à la pratique. Pourquoi ? Bon, l'argument est relativement simple et classique d'ailleurs. Eh bien parce que avant de se demander si on a faim et qu'est-ce qu'on peut manger, ou avant de se demander ce qu'on peut connaître et si on a envie de savoir ça ou comment, ou de faire tout simplement la critique de la raison pure, eh bien il faut se demander si ça a un intérêt pour nous de le faire, si c'est bien, si c'est mal, et si on peut organiser notre vie autour de ceci ou plutôt de cela. Donc de ce point de vue-là, la critique de la raison pratique qui arrive dans un deuxième temps dans l'œuvre de Kant est en fait la plus importante au sens où elle était là en ligne de mire dès la critique de la raison pure. Et n'oubliez pas que la critique de la faculté de juger qui vient corriger les deux premières, en principe, ratée selon Hegel, eh bien c'est parce que finalement les conclusions de la faculté de juger sont encore des conclusions morales. Donc on n'en sort jamais. Tout doit être orchestré par la question éthique. Alors, après tout, Kant n'est pas le seul à l'affirmer. Hein, vous avez tout un tas de philosophes qui enregistrent cette primauté de la philosophie morale et de l'inquiétude morale en général dans la vie humaine. Je pense à Lévinas, mais il y en a beaucoup d'autres. En revanche, ce qui va distinguer Kant, c'est le deuxième point par lequel je résumerai cette philosophie morale, c'est que les lois morales, la morale s'exprime par des lois, et donc, d'abord par des critères formel. De ce point de vue-là, Kant est le champion dans la philosophie morale du formalisme. C'était déjà présent chez les autres, et ça le sera encore chez d'autres après lui, mais il en fait le cœur absolu du critère du bien et du mal. Le point de départ, on pourrait en discuter, selon Kant, c'est que tous et toutes, en tout lieu et en tout temps, s'accordent sur l'idée qu'il y a une bonne et une mauvaise conscience, qui renvoie à une bonne et une mauvaise volonté, comme dans l'expérience de la punition ou de la récompense. Car si quelqu'un agit mal, mais avait quand même une bonne intention, on ne peut pas lui en vouloir autant, voire lui en vouloir du tout. A l'inverse, quand quelqu'un avait une mauvaise intention, mais réussit malgré tout, s'il est poli, s'il rend la monnaie, mais d'une façon très intéressée et mesquine, eh bien, on a le droit de lui en vouloir quand même. Donc, cette manière d'approcher la vie morale, c'est d'abord de partir de l'idée qu'il y a des choses à faire et des choses à ne pas faire. Autrement dit, la loi ou le devoir est le fait premier pour étudier la vie morale. Ensuite, le raisonnement est presque très simple, en tout cas quand d'abord prétend ne relever cela que dans les mœurs de la vie de tous les jours, donc après tout, il dit « moi je n'invente rien, je ne fais que relever ce que vous faites tous au quotidien », son seul effort, et qu'il présente lui-même comme analytique, c'est simplement d'expliciter ce qu'il y a dans cette bonne et cette mauvaise conscience, ou dans cette expérience de la récompense ou de la punition, ou encore dans cette voie du devoir qui me dit « tu ne dois pas mentir, c'est pas bien », ou « tu dois aider la vieille dame à traverser, c'est bien ». Bon. Alors qu'est-ce qu'il y a dans ce « tu dois » qui résume pour lui toute la vie morale ? Eh bien, analytiquement, il y a l'idée que cette loi s'impose à moi comme à tous les autres. « Tu ne dois pas mentir » doit valoir pour tous. En fait, c'est déjà contenu dans le « tu dois ». Le « tu » n'est pas un « tu », toi, Pierre, en particulier à ce moment-là, à tel endroit, mais c'est un « tu » qui a d'emblée une valeur générale. Toi, en tant qu'homme identique de ce point de vue-là à tous les hommes, tu ne dois pas mentir. Autrement dit, le critère de l'universalité, moi-même je le prenais à partir de la définition tout à l'heure d'un dictionnaire de la langue courante, eh bien, il n'est pas inventé par Kant, il est relevé par Kant dans l'expérience du devoir que nous faisons tous, en principe, quotidiennement, et qui, en principe, organise l'ensemble de notre existence. Alors, vous pourriez tout de suite objecter que l'existence est faite de devoirs ponctuellement. Alors si je vois une vieille dame qui doit traverser la route, ou si j'ai la mauvaise idée de peut-être mentir pour échapper à une difficulté, mais n'oublions pas qu'il y a aussi des devoirs fins, c'est-à-dire, ils sont peu nombreux mais ils existent, des commandements qui s'imposent à moi et qui organisent l'ensemble de mon existence. Donc ça ne peut pas être juste la boîte à outils que je sors de temps en temps quand la question se pose. Il y a deux devoirs fins, c'est pas très compliqué chez Kant. Le premier, que les Cagneux connaissent bien, qui est le devoir de cultiver ses facultés. C'est parce que vous êtes de jeunes Kantiens que vous préparez des concours. Vous ne le saviez peut-être pas, mais maintenant c'est fait. Pourquoi ? Parce que, alors, il y a toute une argumentation, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais pour le dire rapidement, c'est une question de dignité. Il s'agit d'être à la hauteur de soi-même. Voilà. Dit comme ça, c'est un peu rapide, vous trouverez la justification complète au début de la doctrine de la vertu. Et ces facultés, je le dis pour mes cagneux et les hypocagneux aussi, ces facultés sont aussi physiques. Donc ça veut dire qu'on n'est pas censé laisser son corps dépérir pendant qu'on cultive son esprit. De toute façon, à terme, ça ne marche pas. L'autre ne marche pas non plus. Vous ne pouvez pas être, je ne crois pas en tout cas, un excellent sportif et n'avoir rien dans la tête. Donc les deux marchent ensemble. Et Kant pense bien aux deux. Et il y a un deuxième devoir fin, qui exprime surtout la troisième expression de l'impératif catégorique, qui est le devoir large d'assistance envers autrui. Alors il est large, de même que le premier, c'est-à-dire que Kant ne vous dit pas exactement « tu seras cagneux ou tu ne seras pas un homme », désolé. Il ne dit pas non plus « tu seras commercial ou tu seras scientifique ou tu ne seras pas un homme ». Il dit « il faut cultiver ses facultés », c'est-à-dire que charge à chacun ensuite d'observer quels sont ses talents, ses propres inclinations, le contexte, les contraintes, etc., pour voir, premièrement, quelle sera la meilleure manière pour moi d'être moi-même et plus encore moi-même en fonction de ces contraintes, et deuxièmement, comment, au regard de ces mêmes contraintes et de mes talents, rendre service, être altruiste, etc. Alors, voilà pourquoi on peut considérer que l'établissement des devoirs est premier. Je reviens aux critères formels, après vous avoir expliqué pourquoi on pouvait fonder toute son existence, selon Kant, sur les devoirs. Eh bien, puisque le « tu dois » est un « tu dois » qui vaut pour tout homme digne de ce nom, en fait, il est impersonnel, ce « tu dois », hein, il s'impose à moi par une voix que j'aimerais ne pas entendre. C'est plutôt moi, en tant que j'ai un désir personnel et sensible sur le moment, en fonction de désir personnel, de mode, de tout ce que vous voulez, qui aurait tendance à ne pas écouter une voix impersonnelle en moi. Mais la bonne nouvelle, c'est que si elle est impersonnelle, elle vaut pour tous, et donc on a un premier critère, que Kant résume dans son bien connu, trop connu peut-être, impératif catégorique, et qui est souvent annonné par les élèves de terminale, à savoir « agis toujours de telle sorte que la maxime de ton action puisse valoir comme loi universelle ». La maxime, c'est facile, c'est la sorte de petite règle implicite à l'intérieur de votre action. Si vous mangez des bonbons, ça veut dire qu'implicitement, vous dites que manger des bonbons, c'est bien. Donc en fait, il y a plein de moments dans la journée où vous avez des maximes implicites. Vous pouvez les expliciter, mais la plupart du temps, on ne le fait pas. Si vous pouvez faire en sorte que cette maxime soit valable pour tous, ou, deuxième façon de présenter la même chose pour Kant, n'implique pas de contradiction dans votre vouloir, c'est la même chose, eh bien, alors, vous êtes dans le bien. Ce que vous faites est bien. Est-ce que manger des bonbons est contradictoire ? Dans un premier temps, non. Car tout le monde pourrait manger des bonbons. Voilà le critère conscient, donc vous n'êtes pas dans le mal. Ça ne veut pas forcément dire que vous êtes dans l'accomplissement d'un devoir fin, mais en tout cas, vous ne faites rien de mal. Au pire, ce sera amoral, mais ce n'est pas immoral. Maintenant, tout dépend de la quantité, et voilà où le devoir fin intervient. Puis-je passer ma vie à manger des bonbons ? Non. Le manque de soins du corps, l'obésité extrême par suite de goinfrerie, de sucrerie, eh bien, est immoral pour Kant, parce que vous ne respectez pas la personne en vous, et d'ailleurs ça a tout un tas d'implications, parce que si vous pesez 500 kilos, enfin, je ne sais pas si c'est possible, 200 kilos, ça c'est vu, eh bien, d'abord pour exprimer vos talents, ça devient compliqué. Et puis pour rendre service à autrui, ça devient aussi très compliqué. De surcroît, vous devenez une charge pour autrui, parce qu'il voilà, à tout point de vue. Et donc, en fait, voilà, l'obésité, dans son cas extrême, et lorsqu'elle est issue d'un manque d'hygiène qu'on aurait pu corriger, hein, c'est autre chose quand c'est une maladie, évidemment, elle est immorale. Bon, voilà l'exemple pour les bonbons. Alors, on peut prendre d'autres exemples apparemment plus canoniques, celui de Kant sur le vol. Que fait le voleur ? Il s'empare de ce qui lui fait envie, indépendamment de tout effort qui aurait pu le mener à acheter ce bien ou le fabriquer. Or, le voleur a absolument besoin que les autres respectent la propriété. C'est-à-dire, le voleur a besoin d'être le seul à voler, ou au moins d'être sûr que les voleurs ne viendront pas le voler. Donc il faut une petite communauté de voleurs, voilà, c'est la seule condition. Autrement dit, le voleur est régi par une maxime d'exception. Moi, je veux pouvoir voler, mais je veux que les autres ne volent pas. Voilà en quoi il y a contradiction dans le vouloir, et voilà encore, c'est la même chose en fait, en quoi on ne peut pas universaliser la maxime du « le vol, c'est bien ». Donc vous voyez que le critère formel rend compte analytiquement du devoir, on n'a pas eu besoin de sortir de l'expression du devoir, le « tu dois » comporte le critère d'universalisme et ou de contradiction, c'est la même chose présentée autrement. Kant va ensuite donner d'autres formulations d'impératif catégorique, mais on peut se fonder sur celle-ci, en tout cas, Hegel ne s'intéressera qu'à cette formulation-là. Pour ceux que ça intéresserait, je vous ai mis le texte 1 qui résume cette démarche. On ne fera pas tous les textes que je vous ai distribués, mais on en fera bien sûr certains. Troisième critère pour résumer un peu rapidement la philosophie kantienne, et cela aussi va beaucoup jouer dans l'épisode de la terreur, puisque le tu-dois est premier, les considérations sensibles deviennent subordonnées évidemment à ce tu-dois. Et donc, mauvaise nouvelle, et c'est en cela que Kant n'est vraiment pas du tout séduisant, le bonheur n'est plus une priorité. Il compte quand même, nous dit Kant, car une personne malheureuse serait moins encline à accomplir ses devoirs. Si vous êtes au fond du fond de la dépression, le service d'autrui devient délicat, évidemment. Vous êtes d'abord encombré par vos difficultés, donc l'ouverture est plus limitée, évidemment. Mais en même temps, on ne peut pas en faire une priorité. Donc ce ne sera qu'un devoir indirect, le bonheur. C'est en vue de cultiver mes facultés et en vue de rendre service à autrui, et ce ne sera pas un devoir direct comme les autres dont je parlais tout à l'heure. L'argument de Kant étant, bon, il y en a plusieurs, mais disons que le plus simple, c'est que le devoir, c'est clair, tu ne mentiras point. Tu devras faire en sorte que ta maxime soit universalisable. Le bonheur, c'est pas clair. Comment être heureux ? Nous voulons tous être heureux, mais la manière de l'être est délicate à formaliser. Il n'y a pas de critère formel du bonheur, alors qu'il y a un critère formel du devoir. Voilà l'argument principal. Enfin, dernière manière de résumer l'enseignement de Kant en matière de formalisme, et je vais très vite revenir à la philosophie politique. On est déjà un peu dedans, hein, parce qu'on parle autant de l'éthique que du droit, mais ça va être plus net encore tout à l'heure. C'est que la morale embrasse justement l'éthique et le droit, avec néanmoins quelques différences. Alors, Kant évolue au fur et à mesure de ses livres sur ces différences. J'essaie de les résumer à quatre différences ici. Première différence, dans le cas du droit, la législation est externe, c'est-à-dire qu'elle porte sur la dimension extérieure des actes. Autrement dit, peu importe si un commerçant vous rend la monnaie avec de bonnes intentions ou avec de mauvaises intentions, du moment qu'il rend la monnaie, tout va bien pour le droit. Pour l'éthique, c'est autre chose, parce que s'il le fait juste pour pas avoir de problème ou pour qu'on lui tape pas sur les doigts ou pour garder son client, c'est mal. Voilà. Alors, mieux vaut rendre la monnaie avec de mauvaises intentions que pas la rendre du tout, c'est vrai. Quoique, ne pas la rendre avec la bonne intention de vouloir la rendre, ah, là c'est délicat. Question casuistique, dirait Kant. J'ai voulu la rendre, mais j'en avais pas. J'ai pas pu la rendre. Est-ce que c'est plus mal que la rendre en voulant pas la rendre? Ça dépend. Faut voir. Est-ce que la personne en a vraiment besoin en face? Est-ce que c'est beaucoup de monnaie? Est-ce que j'ai vraiment tout fait pour trouver la monnaie que je voulais rendre? Voilà, c'est ça la question. Et si vous regardez bien la liste de tous les devoirs qui sont décrits par Kant dans la doctrine de la vertu, ils sont tous suivis par des questions casuistiques du type de celles que je viens de vous évoquer. Donc Kant reconnaît qu'en dernier lieu, il y a toujours un exercice du discernement, mais enfin, au point de départ, c'est le discernement à partir d'une règle. Deuxième différence entre le droit et l'éthique, tous deux compris dans la morale, c'est que il y a dans l'éthique des devoirs fins, je vous en parlais tout à l'heure, alors que dans le droit, il n'y a pas de devoir fin. Vous pouvez rester au lit toute votre vie, si vous ne demandez rien à personne, et ben, on ne peut rien vous reprocher du point de vue légal. Voilà. Vous avez le droit, par exemple, de disparaître. On a le droit de disparaître. C'est-à-dire que tant que personne lance un avis de recherche, inquiet de ne plus vous voir, etc., si vous n'avez pas d'amis ou de parents qui sont inquiets pour vous et qui demandent à la police d'enquêter, eh bien, vous avez le droit, du jour au lendemain, de partir. Voilà. Donc l'absence n'est pas un défaut du point de vue du droit. Alors après, si vous contractez des obligations de présence, c'est une autre... une absence injustifiée au travail et motif de renvoi, etc. Mais vous avez le droit de dire « je ne travaille pas, je ne touche pas de salaire, je ne paie pas d'impôts, je ne veux pas qu'on me soigne, je ne veux pas qu'on s'occupe de moi ». Je reste dans mon lit toute ma vie, voilà, c'est légal. Pour l'éthique, c'est pas du tout bien ça, c'est même très très mal. Parce que vous êtes dans le même cas que l'obésité extrême volontaire, ou en tout cas peu attentive à elle-même. Vous ne cultivez pas vos facultés, voilà. Vous êtes indigne de l'exigence de l'humanité. Troisième différence entre le droit et la morale, il y a ponctuellement cette fois, des devoirs qui sont dans le droit et qui ne sont pas dans la morale, dans l'éthique, pardon. Alors, il faut aller les débusquer en fonction de tel droit à telle époque et de la doctrine de la vertu. Mais, par exemple, et Hegel y reviendra à plusieurs reprises, le vol peut être interdit par l'éthique à supposer que la propriété existe. Donc ça suppose, en fait, de s'être déjà référé à un droit qui a institué la propriété. S'il n'y a pas de propriété, alors la morale n'a pas à légiférer là-dessus. Bon. Et une fois qu'on a installé la propriété, l'éthique peut dire le vol est mal, etc., comme je l'ai présenté tout à l'heure, mais le droit va donner tout un tas de précisions sur la nature de la propriété, les conditions de respect de la propriété, la durée de la propriété, la manière d'établir une propriété, dont l'éthique se moque. Enfin, c'est-à-dire, pour elle, c'est des détails contingents. Les actes notariés, la différence d'une propriété intellectuelle et d'une propriété matérielle, etc., etc. Tout cela fait partie des déclinaisons possibles d'un devoir éthique, mais n'a pas à être codifié d'une façon aussi précise par l'éthique. Enfin, dernière différence, et je m'arrêterai là pour cette présentation très rapide de l'acquis kantien en matière morale, eh bien, l'éthique peut impliquer des punitions, mais n'est pas obligée de le faire, ou en tout cas elle n'a pas à les codifier, alors que le droit enregistre presque initialement des amendes, des peines de prison, tout un tas d'éléments qui font que quand il n'y a pas respect de la loi, il y a forcément, d'une manière ou d'une autre, à commencer par le rappel à la loi, hein, qui n'est jamais agréable, eh bien, des formes de punition, alors que la morale n'en a pas de façon indispensable, en tout cas, besoin. Je veux dire l'éthique, excusez-moi. Pour nous, le mot moral a quasiment remplacé le mot éthique au sens kantien, mais chez Kant, on est bien d'accord, la morale embrasse l'éthique et le droit. Voilà ce que je voulais vous rappeler au sujet de Kant, pour ceux qui l'auraient découvert ce matin. J'espère ne pas être allé trop vite. Alors j'en arrive enfin à mon petit Hegel, et ça, ou mon grand Hegel, je crois, mais ça devient un ami avec toutes ces années, va commencer en fait par relire l'idée même du droit, et on est obligé de commencer par là pour ensuite voir comment justement la morale kantienne peut être dépréciée du point de vue de son formalisme. Alors, on va voir à la fois que c'est une réappropriation de la définition kantienne du droit et en même temps un élargissement. Et dès cette définition du droit, on va pouvoir commencer d'apercevoir pourquoi le formalisme, au moins dans un premier temps, est un piège. On verra qu'il y aura à la fois un éloge et une critique très sévère de Kant chez Hegel, autant dans les principes de la vie du droit que dans la phénoménologie de l'esprit. D'où cette deuxième partie dans cette intervention, nécessité du moment subjectif du droit. On va s'intéresser principalement à ce que Hegel retient de l'autonomie kantienne. Et dans un premier temps, donc, avec le texte 2, on va revenir à la définition hegélienne du droit, et plus précisément du formalisme. Donc nous nous situons au paragraphe 29 des principes de la philosophie du droit. Alors pour ceux qui découvriraient le texte hegélien ce matin, ça va vous paraître un peu nouveau, voilà, comme toute langue d'un grand philosophe. Vous ne trouverez pas de grand philosophe qui n'ait son style. Plus ou moins proche, il est vrai, de la langue courante. Pour Hegel, ce sera plutôt moins proche que d'autres. Mais n'empêche que, d'une façon générale, méfiez-vous des auteurs dont la langue est tellement proche de la langue courante qu'ils sont faciles à lire. Si c'est de leur propre effort qu'ils ont fait cette vulgarisation, très bien. À supposer qu'ils aient derrière une langue qui soit plus originale et qu'ils ont adapté, moyennant certaines réductions de leurs concepts. Si en revanche ils ne sont pas capables d'une langue, soit qui leur soit propre, soit qui soit un minimum technique, c'est que ce n'est pas sans doute de la vraie philosophie. Enfin, si en tout cas ils ne sont pas capables d'autre chose. Et c'est sûr que ça se vendra mieux, mais ce n'est pas pour ça que ce sera meilleur. Alors, je ne vais pas le prendre en entier, ce texte est assez long. Je voudrais m'intéresser. Attendez, quoi que c'est la remarque, si on va le prendre en entier, en fait, je ne vous l'ai pas mis en totalité. Alors, on va prendre surtout la remarque, en fait. Dans l'édition Vrin, en tout cas, vous avez les principes qui sont difficiles et vous avez les remarques qui sont issues de l'Encyclopédie des sciences philosophiques qui viennent commenter, en fait, les principes de la philosophie du droit. Donc, j'alternerai des lectures, soit des remarques, soit des principes eux-mêmes. Donc, remarque du texte 2. Dans la définition kantienne, doctrine du droit, qui est aussi la définition généralement admise, le point principal est la limitation de ma liberté ou de mon arbitre, limitation telle que celui-ci puisse s'accorder selon une loi universelle avec la liberté de tout autre. C'est présenté autrement la définition que je vous ai rappelée tout à l'heure. Cette définition ne contient d'une part qu'une détermination négative, celle de limitation, et d'autre part, ce qu'elle a de positif, la loi universelle, appelée aussi loi de la raison, l'accord du libre arbitre de l'un avec l'autre, revient à l'identité formelle, bien connue, et au principe de contradiction. Donc, résumé de la morale kantienne. Cette définition du droit repose en outre sur le point de vue largement répandu depuis Rousseau, selon lequel la base substantielle ou le principe premier n'est pas la volonté existant en soi et pour soi, la volonté rationnelle, ou l'esprit en tant qu'esprit vrai, mais l'esprit comme individu particulier, ou la volonté comme volonté de l'individu, exerçant le libre arbitre qui lui est propre. Une fois qu'on a admis ce principe, ce qui est rationnel ne peut plus apparaître que comme une limitation pour cette liberté. Ce ne sera donc plus un rationnel immanent, mais un rationnel extérieur et formel. Ce point de vue est dépourvu de toute pensée spéculative et il a été rejeté par le concept philosophique quand il a donné naissance dans les esprits et dans la réalité effective à des événements dont l'horreur n'a d'égal que la platitude des pensées qui les ont suscitées. Bon, Hegel est rarement doux quand il parle des autres auteurs, mais en même temps, comme Hegel est hegélien, il arrive toujours à dire d'un certain point de vue, il avait raison sur cela, et d'un autre point de vue, il avait tort. Et alors, en revanche, là, il y a une certaine forme d'arbitraire, puisque il y a des auteurs pour lesquels il est aussi élogieux dans le sens positif qu'il est critique dans le sens de la sévérité, et des auteurs pour lesquels il fait un petit éloge et une critique extrême, et Kant, malheureusement, fait un peu les frais de cette asymétrie. Alors, que retenir de ce texte? On a d'abord un résumé de Kant qui est assez juste, hein, au sens où, négativement, le droit se présente comme une liberté limitée, en fonction des autres libertés, et positivement, par le critère formel, comme l'expression d'une volonté. Entendez, une volonté qui a pris le temps d'étudier le formalisme de ses maximes, et qui s'est aperçue au terme de cette étude que la loi qu'elle a mise en place est bien une loi bien faite. Donc le négatif, c'est au sens de la limitation, le positif, c'est au sens de l'expression de la raison ou de la volonté, les termes chez Kant étant souvent synonymes lorsqu'il s'agit de la raison pratique. Alors aussitôt, et c'est évidemment ce qui va nous servir de fil rouge durant cette matinée, c'est que cette pensée est accusée comme étant plate. Alors on va comprendre ce que ça veut dire, c'est pas plat au sens où ça ne donnerait pas d'émotion, c'est plat au sens où c'est un formalisme qui conduit au vide, on verra pourquoi tout à l'heure. Et du néant formel va naître un néant moral, ou dans l'action, si vous préférez. Autrement dit, il y aurait une parenté directe, voire une identité, entre la platitude, c'est-à-dire le formalisme vide d'une telle définition du droit, et l'horreur que cela produit, sachant que ici, Hegel pense surtout à la terreur, puisque on va prendre tout à l'heure des textes qui sont antérieurs à celui-ci, qu'on trouve dans la Phénoménologie de l'esprit, où très nettement il met en rapport le formalisme kantien avec la terreur de Robespierre et de ses amis. Alors, ce que je voudrais simplement préciser au sujet de ce texte, c'est que si la critique kantienne est d'emblée assez virulente, j'en donnerai le détail tout à l'heure, c'est parce qu'elle repose sur une définition du droit qui ne peut être que plus riche que cette définition kantienne. Vous voyez que pour Hegel, le formalisme auquel parvient Kant est nécessaire quand on a défini le droit tel qu'il l'a défini. Autrement dit, l'erreur principale de Kant, elle est initiale, elle est dans la définition du droit. Et si on remonte le fil encore plus haut, elle est dans la définition du point de départ de la morale, à savoir le devoir. Alors qu'est-ce que le droit pour Hegel? Eh bien, c'est ce que vous avez au tout début du texte 3. Le droit est quelque chose de sacré en général, mais seulement parce qu'il constitue l'existence empirique du concept absolu ou de la liberté consciente de soi. Alors c'est exactement le genre de phrase qui en général fait qu'on ferme le livre. Je vais vous montrer qu'elle est tout à fait accessible, hein, pour peu qu'on la prenne doucement. Donc le droit est quelque chose de sacré en général, donc ça c'est presque une accroche, je m'intéresse à la suite surtout. Il constitue l'existence empirique. Alors l'existence empirique, ça veut dire que le droit est toujours effectif. Le droit, ça s'exprime dans des lois qui sont, alors dans le meilleur des cas, écrites quelque part, et qui n'ont de sens que si elles sont exécutées au besoin avec des forces qui veillent à leur exécution, c'est-à-dire que le droit, c'est d'abord ce qui correspond à un idéal qui a pris le temps de se formaliser. Donc de ce point de vue-là, on ne va pas rejeter toute forme de formalisme. Mais de quoi est-ce l'existence empirique? C'est l'existence empirique d'un concept. Pourquoi? Parce qu'un concept, c'est quelque chose... Alors, il y a une définition très technique, je ne rentre pas dedans, mais en tout cas, c'est quelque chose qui se présenterait d'abord comme idéal, spirituel, tout en tendant à s'exprimer dans quelque chose de, disons-le simplement, matériel. Hegel dira quelque chose d'effectif. Donc, ce type de concept n'a de sens qu'en tant qu'il s'exprime quelque part. On pourrait peut-être pas dire ça de toutes les idées. Il y a des idées qui ont déjà un intérêt en tant qu'idées et qui ne tendent pas à se manifester dans une extériorité de comportement ou de matière. Les idées mathématiques, par exemple, sont-elles là pour d'abord s'exprimer? Bon, d'un certain point de vue, oui, dirait Hegel, mais en général, elles ont déjà sens en tant qu'idées. Or, Le concept dont il s'agit ici est un concept qui cherche à se manifester extérieurement. Pourquoi ? Parce qu'il ne s'agit pas d'un concept d'idée mathématique, mais du concept absolu ou de la liberté consciente de soi. On peut contracter les deux expressions, c'est pas une faute. Il s'agit du concept même de liberté, en réalité. Ce qui fait dire à Hegel, dans d'autres formulations, que le droit est l'extériorisation de la liberté. Une liberté qui ne s'extériorise pas n'est pas une liberté. Or, elle peut s'extérioriser de n'importe quelle façon, dont certaines sont des façons intelligentes, d'autres des façons mal comprises de ce qu'on voulait exprimer. Et quand la liberté s'exprime bien, elle cherche à se manifester dans le droit. Et de ce point de vue-là, Kant n'a pas que tort, car le droit ou l'éthique sont des expressions de la liberté. Et Kant de dire que la volonté n'est jamais autant libre que quand elle respecte les lois morales. Donc, de ce point de vue-là, il y a quelque chose de vrai. Sauf que, là où Kant s'arrête et là où Hegel prétend poursuivre, c'est que Kant suppose, plutôt explique, que le formalisme va être l'expression de la liberté bien comprise, alors que Hegel va dire « ce formalisme est une étape absolument nécessaire, mais largement insuffisante. » De sorte que quand vous n'utilisez que ce critère-là, vous aboutissez à la terreur. Ce qui veut dire que le moment kantien, et j'en parle maintenant d'un point de vue dynamique, est un moment indispensable dans le développement du droit, mais un moment trop partiel pour être efficace. Et on verra même, en tant qu'il conduit à la terreur, que cela permet à Hegel d'affirmer qu'il fallait passer par le mal kantien. Alors, c'est pas forcément Kant qui a exprimé ce mal jusqu'au bout, hein. Lui, il l'a théorisé, mais concrètement, il fallait la terreur pour que la révolution trouve son rythme, que la République s'installe, etc., etc. Donc, vous allez voir que dans la description du mécanisme du passage de la bonne intention politique à la terreur, on a en fait une justification de la nécessité du mal politique. Alors, je reste un instant sur ce concept de droit, parce que, plus précisément, puisque le droit est un élément historique, comme toute chose pour Hegel, eh bien, il va comporter trois grands moments lui-même. Et j'en ai besoin parce que vous allez voir que le formalisme kantien trouve une place bien précise dans cette élaboration. Puisque la liberté cherche à s'exprimer, mais que la liberté, c'est très compliqué, parce qu'après tout, la liberté, ce n'est rien que l'esprit dans sa totalité, eh bien, dans le moment juridique de l'esprit objectif, il y a trois étapes qui correspondent aux paragraphes 5, 6 et 7 des principes de la philosophie du droit. Alors, premier moment, et vous allez voir que ça peut s'exprimer de façon très vulgarisée sans qu'on perde le sens hegelien, c'est ce moment où je me dis « Ah, c'est formidable, être un homme, c'est pouvoir choisir de faire ce qu'on veut. » C'est la liberté au sens de la séduction immédiate. C'est le moment de l'universel abstrait. Ce qui est chouette, quand les parents sont pas là, c'est qu'on fait ce qu'on veut à la maison. Voilà. Vous êtes dans l'universel abstrait. C'est la séduction de pouvoir tout choisir. Je fais ce que je veux, quand je veux. Alors évidemment, ça suppose d'avoir des moyens matériels d'effectuation. C'est, si vous voulez, une des motivations à la recherche de l'argent. L'argent, c'est la possibilité de faire ce que l'on veut. En tout cas, de réaliser matériellement un grand nombre de désirs, quels qu'ils soient. Le problème intervient aussitôt. C'est que quand on fait ce qu'on veut, on peut commencer à faire n'importe quoi. On peut soi-même être déçu par ce zapping des désirs et des projets. Et puis, nous dit Hegel, faire un peu tout ce qu'on veut et ne vouloir jamais s'arrêter à un seul désir pour avoir la possibilité de tous les accomplir, c'est finalement un peu comme le zapper à la télé, si vous voulez. À force de regarder toutes les chaînes, à la fin, quand il se demande ce qu'il a regardé, bah, il ne sait plus très bien. Voilà. Vous ne pouvez pas voir 30 films en même temps, ça ne marche pas. Ou alors, ça vous fait une sorte de super film un peu incompréhensible, inévitablement. Il faudrait vraiment choisir des films qui commencent tous au même moment, qui ont toute la même structure. Ça paraît assez improbable. Donc, très vite, cette séduction du pouvoir tout faire, du pouvoir changer ses désirs, du pouvoir changer d'objets, de voitures, de vêtements, etc., etc., eh bien, tombe dans son contraire, c'est-à-dire qu'à force de tout vouloir, je m'aperçois que je ne veux rien. Je m'aperçois que c'est une fausse liberté, et c'est pour ça que c'est un universel abstrait. Universel parce que je suis tourné vers la totalité des directions, et en même temps, abstrait parce que ça se termine dans le néant. Vous allez voir que abstrait veut souvent dire cela chez Hegel, vain au sens étymologique du terme, c'est-à-dire rien. D'où la réaction, passage au deuxième temps du droit, paragraphe 6, moment du particulier, à ne pas confondre avec le singulier. Le particulier, c'est quoi? C'est puisque j'ai échoué dans ma tentative de vouloir tout, c'est-à-dire de ne vouloir rien, et que ce rien n'est pas satisfaisant. Hegel prend l'exemple des bouddhistes qui cherchent à vider leur volonté, leur désir, leur conscience, pour dire, mais finalement, à la fin, ils sont vides, ils ont tué le moi. Donc, les deux figures de l'universel abstrait, à vouloir tout ou vouloir rien, sont décevantes. On a une contradiction, on passe à un dépassement. Ce dépassement, c'est vouloir une chose et s'y attacher. La détermination. Voilà ce qu'on réclame de quelqu'un quand on lui dit « tu sais pas ce que tu veux, il serait temps de te fixer un peu les idées, concentre-toi sur tes objectifs, arrête de penser aux filles, travaille. » Voilà. Bon. Ça, c'est le moment particulier du droit. Donc dites-vous de ce point de vue-là que vos tuteurs, professeurs ou parents, dans ces discours-là, se sont élevés à un niveau de droit supérieur au vôtre. Ils réclament votre respect spéculatif de ce point de vue-là. Bonne nouvelle, vous allez pouvoir leur répondre, car ce moment est insuffisant, comme à chaque fois. Quelle est la contradiction du moment particulier? On le voit peut-être plus facilement encore que dans le moment universel. C'est que quand je veux une seule chose, et que j'y travaille, et que je l'approfondis, et que je me concentre dessus, il y a un moment, au moins déjà dans un premier temps, affectivement, où je peux me fatiguer, être lassé, m'ennuyer. Envie de changer de métier, envie de changer d'air. Cette maison, je l'ai construite, je l'ai décorée, je l'ai choisie, je l'ai transformée. Et si je prenais une autre maison? Donc l'ennui est déjà une manière de dire, mais du côté de l'universel abstrait, il y avait au moins le choix, on pouvait. Il y avait quelque chose de vrai. Bon, là, je me suis un peu trop concentré. J'ai fait le tour. Et ça peut arriver à certains moments dans sa vie, quand l'activité, en tout cas, n'est pas assez riche, ou quand des affects d'ennui laissent croire qu'on a fait le tour. Mais il y a une deuxième manière de voir la difficulté de ce moment-là, c'est que en choisissant quelque chose, inévitablement, j'élimine toutes les autres options, et comme extrêmement peu d'activités sont assez ouvertes, riches et universelles pour me donner le sentiment que j'ai inclus toutes les autres en la choisissant, eh bien, j'ai le sentiment d'une privation. Donc, c'est pas seulement un affect qui pourrait avoir quelque chose de contingent, c'est plutôt que l'affect serait, dans le meilleur des cas, la traduction de cette privation. Le moment négatif du choix du particulier, c'est d'avoir sacrifié pour pouvoir être davantage soi. Dans le premier moment, universel abstrait, je savais même plus qui j'étais au bout d'un moment. Dans le deuxième moment, je sais tellement ce que je veux que je me suis privé de plein de choses. Et Hegel d'ajouter, d'ailleurs, souvent quand on se concentre sur quelque chose, c'est parfois qu'on nous a fait nous concentrer sur quelque chose. Donc tout le déterminisme sociologique et autres d'ailleurs s'en mêle. Ai-je vraiment été libre de me concentrer là-dessus? Dans des choix qui me paraissent libres sur le moment, la privation ou l'ennui ou la frustration que je peux sentir à sacrifier, hein, choisir c'est sacrifier, disait Bergson, eh bien, ça ne peut être que le symptôme d'une contradiction qui est là dans tout choix, finalement. C'est pourquoi ce moment de la liberté n'est pas plus satisfaisant que le premier. Un peu plus, on a monté d'un grade dans la spéculation, mais il reste en attente d'autres choses, et cette résolution, elle intervient dans le troisième et dernier moment du droit. Et vous voyez que jusque-là, on parle autant de morale que de droit, en fait. Hein. Hegel ne fait pas la différence entre les deux, ou très peu. Voilà. C'est pas une différence très opératoire à ses yeux. Ce dernier moment, pour l'instant, ça va être pour nous un projet, c'est le moment du singulier, ou de l'universel concret, ou de la synthèse de la contradiction. Et ça s'appelle l'état. Alors l'état, pour être plus précis, c'est le dernier moment de cela. Ça s'appelle la vie éthique, hein, dans ces différentes étapes. Donc, je reviens un peu sur l'étiquetage. Premier moment du droit, universel abstrait, c'est le droit abstrait. Deuxième moment, moment du particulier, c'est le moment de la moralité, c'est là qu'on va s'installer. Et troisième moment, c'est le moment de la vie éthique dont le plus haut degré s'incarne dans l'État. Petit moyen mnémotechnique pour ceux qui poursuivront sur Hegel, universel, particulier, singulier, UPS, hein, comme le transporteur, si ça vous aide, ce sont les trois moments de toutes les dialectiques hegeliennes. Qu'il les présente ainsi ou autrement, c'est pas grave. Immédiat, média, immédiateté, médiatisé, c'est pareil. Ou encore thèse, antithèse, synthèse, quoique l'expression soit finalement assez rare chez Hegel. Hein. Elle a eu un destin scolaire, mais Hegel n'en abuse pas. Être, néant, devenir, voilà les principales manières pour Hegel d'exprimer les trois mêmes temps récurrents de sa dialectique. Alors on peut revenir maintenant, que vous en savez un peu plus sur la notion de droit selon Hegel, à cette critique du formalisme. Pourquoi ? Parce que s'il peut y avoir une critique du formalisme dans chacun des trois moments du droit, la critique la plus nette et la plus forte du formalisme au sens kantien que va prononcer Hegel, on va la trouver à la fin du deuxième temps du droit, c'est-à-dire la moralité, c'est-à-dire le moment particulier, le moment de l'antithèse, et ce sera le moteur du passage au dernier temps du droit, c'est-à-dire à la vie éthique ou au moment du singulier. Donc finalement, Kant est le moment indispensable par lequel il faut passer et l'occasion d'une contradiction indispensable pour passer au vrai moment ultime du droit. C'est pourquoi on peut avoir une critique du formalisme accompagnée en même temps de son éloge. On peut prendre la suite du texte 3, on a lu qu'une phrase tout à l'heure. C'est ce qu'il dit justement ici. Le formalisme du droit, et il en est de même du formalisme du devoir, a sa source dans la différence qui existe entre les différents niveaux de développement du concept de liberté. C'est ce que je viens de vous expliquer. C'est-à-dire qu'il y a un formalisme nécessaire parce qu'on est dans le deuxième moment du droit, et il y a un formalisme ravageur parce qu'on est seulement dans le deuxième moment du droit. Par opposition au droit plus formel, c'est-à-dire plus abstrait, et donc plus limité, la sphère et le niveau de l'esprit présentent une forme plus haute du droit. Ça, c'est le bon côté. Si le formalisme intervient dans le deuxième moment du droit, bravo, c'est qu'on a déjà dépassé le premier moment du droit. Il y a un formalisme encore pire dans le droit abstrait, qui s'appelle le contrat. Alors, Hegel va très vite là-dessus, parce que pour lui, ça ne marche pas du tout. On y reviendra quand on fera avec les cagneux de Rueil et la critique de Rousseau. Le deuxième moment est un formalisme déjà bien plus accompli. Mais vous devinez ce qui arrive, c'est la suite du texte. C'est là, en effet, que les moments ultérieurs contenus dans son idée de l'esprit trouvent leur détermination et leur réalité effective, parce que cette sphère est cette sphère la plus concrète et la plus riche en soi, et la plus véritablement universelle. Oui, c'est là où les déterminations ultérieures commencent à s'affirmer. Ça veut dire qu'il faudra passer à autre chose. Et donc, d'un certain point de vue, celui du droit abstrait, le formalisme kantien est excellent. D'un autre point de vue, celui de la vie éthique, le formalisme kantien est une horreur absolue. Et on a bien les deux, parce qu'on a une compréhension dynamique du concept de droit. Et le mot formel va tantôt être pris dans les deux acceptions, dans la première acception que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire la garantie de quelque chose logiquement fondé, en vue d'un bon rapport avec autrui, et d'un autre point de vue, celui de la vie éthique, il sera pris dans sa dimension de rigidité, de raideur et même d'inhumanité. Alors pour autant, et c'est pour ça que j'ai redoublé le titre en sous-titre, presque à l'identique, ce moment est absolument nécessaire et Hegel va le préciser, ce moment subjectif, on peut le présenter aussi comme cela, voilà une autre manière de présenter la dialectique hegelienne, objectif-subjectif et réconciliation du subjectif et de l'objectif, ou encore être-essence-concept. Bon, il y a beaucoup de manières de nommer les dialectiques selon les moments où on se situe, mais ça revient toujours à peu près à la même chose. En tout cas, c'est un moment subjectif, vous allez de mieux en mieux comprendre pourquoi, et de ce point de vue-là, on peut l'appeler autonomie. Et c'est ce qui intéresse Hegel lorsqu'il commente cette notion dans Le projet et la faute ou L'intention et le bonheur moral, qui sont des sections de la moralité dans les principes de la philosophie du droit. Alors, pourquoi cette insistance sur la nécessité du moment subjectif du droit? Parce que Hegel commence par faire un éloge de Kant dès cette partie-là, c'est-à-dire avant même d'entrer dans le détail du formalisme, pour dire que Kant a révélé finalement les concepts à l'œuvre dans la modernité. Pourquoi? Parce qu'il a restauré l'importance qu'il fallait accorder au sujet en manifestant le passage de la notion de sujet à la notion de personnalité morale. Dans un premier temps, ça veut dire quelque chose de tout simple. Ça veut dire que selon Hegel, avec la modernité, alors c'est plus compliqué que ça, en fait, ça commence dès le mythe d'Antigone à ses yeux, et ça s'accomplit plus encore avec l'Empire romain. Donc c'est une modernité comprise de façon très personnelle. Eh bien, on aurait enfin renoncé à cette idée que le bien, c'est l'ascétisme. Que le bien, c'est forcément s'être fait mal au point de laisser de côté toute préoccupation de confort ou de bonheur personnel. Donc de ce point de vue-là, même si Kant ne donne pas priorité au bonheur, il fait partie de cette époque où on donne à la personne un droit au bonheur, ou un droit à exister, ou un droit à la reconnaissance, qui peut s'exprimer de façon bonne ou plutôt bizarre. C'est par exemple pour Hegel, quand il maintient cette distinction, c'est pas toujours le cas, ce qui fait la différence entre la période grecque de l'histoire universelle et la période romaine. La vraie différence, pour lui, c'est la corruption. Et la corruption, c'est bien. Pourquoi la corruption de la démocratie romaine, de la République romaine, c'est bien? Parce qu'elle manifeste le désir de l'individu de trouver sa place dans une république qui aurait tendance à raisonner seulement en termes de totalité et de peuple. Autrement dit, la démocratie naît dans un premier temps à l'époque grecque, et l'individu est subordonné à la totalité, et avec l'Empire romain, l'individu réclamerait son droit face à la totalité. Eh bien, cela, c'est le droit au bonheur. Donc, le bonheur fait partie des préoccupations nécessaires que le droit doit enregistrer. De même, c'est la bonne nouvelle aussi, c'est que pour être heureux, on ne peut pas séparer les moments de l'action. C'est ce qui est dit dans le texte 4, je ne vais pas le lire en détail, mais je voudrais m'intéresser au début et à cette proposition, le sujet c'est la série de ses actions. Voilà une autre difficulté morale que le moment de l'autonomie vient rompre, selon Hegel. Alors, je dis autonomie pour que ce soit plus net, mais Hegel distingue différents moments à l'intérieur de la moralité. Bon, je ne rentre pas dans ce détail-là, mais en tout cas, cette idée que l'individu peut affirmer ses droits, réclamer son bonheur, réclamer la justice, penser être à l'origine de la distinction du bien comme du mal, ça c'est l'autonomie kantienne, eh bien c'est ce qui fait qu'on ne peut pas rentrer dans une morale ascétique. Non seulement on a droit au bonheur, mais il est hors de question qu'on entre dans des phénomènes de mauvaise conscience récurrente. Si le sujet c'est la série de ses actions, ça veut dire que on ne pourra pas dire le moyen est mauvais mais la fin est bonne, ou les moyens sont bons mais la fin est mauvaise. De sorte que quand vous reconnaissez la qualité au moins ponctuelle d'une action, vous êtes obligé de reconnaître qu'elle retentit sur les autres aspects de cette action. Lisons le début de ce paragraphe 124, qui est un peu plus difficile, mais qui marque en fait la naissance de la modernité, comme vous pourrez le découvrir par vous-même si vous lisez plus tard la remarque qui le suit. Dans la mesure où la satisfaction subjective de l'individu lui-même, y compris le fait d'être reconnu dans son bonheur et dans sa gloire, est également contenu dans la réalisation des buts valables en soi et pour soi, l'exigence d'après laquelle c'est un tel but qui seul doit être pris en considération et réalisé, ainsi que l'opinion selon laquelle les buts objectifs et les buts subjectifs s'excluent mutuellement dans la volonté, apparaissent l'une et l'autre comme des affirmations vides de l'entendement abstrait. Alors, je me contenterai de cette phrase qui est déjà assez lourde. L'idée de dire « bon, il était bien intentionné, mais il a manqué son action, ou bien on est content du résultat, mais on aurait aimé d'autres moyens, ou même les moyens étaient bons, le résultat est bon, mais l'intention était mauvaise, pour Hegel, ce sont des façons abstraites d'envisager l'action. À la rigueur, tout est bon, ou tout est mauvais, ou tout est moyen, mais vous ne pouvez pas dire « c'est un produit bien fabriqué, bien vendu, bien pensé » et dire « ah oui, mais comme c'est pour du profit, c'est mal ». C'est la bonne nouvelle, éloge des écoles de commerce. Vous avez le droit de rechercher le profit si vous faites des bons produits. Voilà. À moins que vous arriviez à montrer que le produit qui paraît bon, qui paraît bien diffusé, bien marketé, etc., soit pas si bon que ça, parce que l'intention était mauvaise. Ça marche dans les deux sens. Hein. Mais l'idée de découper l'action, comme peut le faire Kant, à certains moments en tout cas, en disant « il faut au moins vérifier que l'intention est bonne », du point de vue du formalisme, c'est le début d'une abstraction. Et donc, vous voyez déjà que l'éloge est en train de se transformer en critique, c'est-à-dire que Kant, et c'est pas toujours vrai, donc là-dessus la lecture de Hegel est un peu rapide, Kant aurait séparé des moments à l'intérieur de l'affirmation de l'individu qui ont un avantage. Cela marque la nécessité pour l'individu de se situer par rapport à la loi. Donc c'est un moment essentiel du droit. Mais il ne faut pas découper les moments de l'action. Alors, on va pouvoir, au terme de ces remarques, entrer plus dans le détail de ce formalisme. Je vous en ai déjà donné quelques éléments, mais vous allez voir qu'Hegel est extrêmement sourcilleux sur le mécanisme qui fait qu'on passe de ce formalisme abstrait et exigeant au mal politique. Et donc, on va développer le cœur vraiment de cette intervention. Je vous avais dit que ce fallait assez patient, la philosophie est un peu orchestrée de cette façon-là. J'en arrive donc au dernier et principal moment de cette intervention, la contradiction interne au formalisme abstrait, ou le mal comme négativité. Et, de même que je vous ai dit à plusieurs reprises, c'est une manière de féliciter Kant et en même temps une manière de le critiquer sévèrement, on va repartir sur ce qu'on peut présenter comme l'éloge de Kant. Donc je reviens sur une idée que j'ai esquissée, mais cette fois pour y entrer de façon bien plus précise, et cela à partir du texte 5. Le mérite de Kant, selon Hegel, c'est non seulement d'avoir donné des critères nécessaires, bien qu'insuffisants, de la moralité, c'est, comme j'indiquais un instant en vous présentant les différents moments du droit, d'avoir représenté au plus haut le moment subjectif du droit, ce qu'on appelle la moralité, mais troisièmement, et c'est à cela que je veux en arriver maintenant, d'avoir fait comprendre que le devoir est un moment absolument nécessaire de la vie morale et qu'on ne peut pas être insensible à la dimension impérative des devoirs. Reste que Kant, en manifestant cela, n'a pas été capable d'expliquer pourquoi le devoir se présente à moi comme ce à quoi je dois obéir. Kant le présente comme un fait, en tout cas il en part, et après, avec le dualisme du noumène et du phénomène, il essaiera d'expliquer pourquoi ça prend une dimension impérative, mais en tout cas, aux yeux de Hegel, après tout, et c'est une critique assez classique, s'il y a deux moi en moi, hein, pour le dire rapidement, il n'y a pas forcément plus de raison que l'un obéisse à l'autre que l'inverse. Vous allez voir que l'explication hegelienne de la dimension impérative du devoir est bien plus satisfaisante de ce point de vue-là, que, en tout cas à mes yeux, que l'explication kantienne. Alors prenons s'il vous plaît le texte 5. Je vous soulagerai dans quelques minutes de ces lectures difficiles par un deuxième extrait de film, si ça motive votre écoute. Alors, texte 5, parce qu'il y a de l'intérêt sensible aussi dans une attention intellectuelle. Donc, le droit de la volonté subjective consiste en ceci, que ce qu'elle doit reconnaître comme ayant de la valeur soit jugé par elle comme bon. Une action ou la réalisation de son but dans l'objectivité extérieure ne peut lui être imputée comme juste ou injuste, bonne ou mauvaise, légale ou illégale, que dans la mesure où elle a elle-même la connaissance de la valeur que cette action a effectivement dans cette objectivité extérieure. Alors, le texte est un peu difficile, je vais vous l'expliquer. La première phrase, finalement, est la plus importante. Le droit de la volonté subjective, hein, c'est bien le moment subjectif du droit, deuxième moment, moralité, consiste en ceci que ce qu'elle doit reconnaître comme ayant de la valeur soit jugé par elle comme bon. C'est presque simple, ça veut dire, pour vraiment obéir à un devoir, il faut que moi, en mon intimité, en mon fort intérieur, en ma conscience, j'ai absolument reconnu que c'est bien. Kant ne dirait pas le contraire, d'ailleurs, et c'est pour ça qu'on est dans un moment kantien, ici. Mais l'explication de Kant, d'abord, n'est pas assez complète, et surtout, ça mène Kant, via son impératif catégorique, à dire donc ça ne peut pas être le bonheur qui compte, puisque c'est jamais assez clair, puisque je ne peux pas reconnaître comme absolument bon, certainement bon, catégoriquement bon, ce que je fais. Donc, cette même exigence, elle mène quant à deux choses qui sont insatisfaisantes aux yeux de Hegel. Premièrement, à éliminer bien trop la priorité du bonheur. C'est pas ce sur quoi on va s'attarder aujourd'hui, mais ça compte. Et deuxièmement, elle mène Kant à une fausse explication de la raison pour laquelle le devoir s'impose à moi. Vous savez que c'est une question récurrente, pas seulement en philosophie, mais par exemple également dans les sciences sociales. Qu'est-ce qui fait qu'une autorité s'impose ? Voilà. Donc les psychosociologues ou les sociologues se demandent par quel mécanisme un commandement est reconnu comme fiable, autoritaire, puissant, etc. En réalité, l'explication de Kant est un peu une manière d'éviter le problème. C'est-à-dire que tout d'un coup, on trouve dans la boîte à outils des concepts eux-mêmes problématiques de la raison pure, un dualisme qui devrait quand même marcher, celui du noumène et du phénomène, sachant que du noumène, on ne peut rien dire, donc c'est un peu embêtant de trouver une articulation qui fonctionne, et on dit, on ne peut rien dire, sauf que c'est par là, sans doute, que la moralité s'impose à moi, de moi à moi. Mais en fait, on a les mêmes difficultés que dans tout dualisme. Pourquoi l'une des deux parties s'imposerait à l'autre ? Parce qu'elle est plus forte, plus constante, plus noble, mais si moi j'ai pas envie de la trouver plus noble, etc., etc. Ce qu'on pouvait déjà reprocher à Platon ou Aristote, etc., toute la tradition de ces dualismes, se retrouve sur d'autres concepts, certes, mais tout de même, chez Kant. Et Hegel, vous allez voir, a une explication beaucoup plus précise et à mes yeux satisfaisante de la dimension impérative du devoir. C'est pour cela, j'y insiste, que le devoir est un moment indispensable du droit. À aucun moment, il ne faut s'affranchir de cette étape, et les lois, même celles de l'État, une fois parvenues à l'apogée du droit, devront se présenter en large partie comme des devoirs, alors pas les mêmes, mais comme des devoirs. Quel est ce mécanisme ? Eh bien, c'est que, rappelez-vous, on est passé du droit abstrait à la moralité, c'est-à-dire d'un universel abstrait à ce que Hegel appelle le particulier. Autrement dit, on a dépassé la contradiction du droit abstrait dans le passage au particulier. Le passage au particulier, c'est quoi ? C'est l'avènement de la subjectivité, ça revient à dire cela. À tout choisir, je ne choisissais rien, mais moi, qu'est-ce que je suis ? Qu'est-ce que je veux dans tout cela ? C'est pour ça que la moralité, c'est le moment de la subjectivité. C'est bizarre, hein, une fois qu'on a présenté Kant avec son critère formel d'universalité, on se dit « mais non, c'est pas subjectif, au contraire, c'est impersonnel, c'est universel, etc. » Mais oui et non, c'est-à-dire que d'abord, c'est l'affirmation de la subjectivité, d'où mon insistance sur le droit au bonheur, la totalité de l'action me représente, etc. Oui, sauf que, comme je vous l'indiquais tout à l'heure, puisque ce moment est également contradictoire, c'est-à-dire on revient à une opposition du particulier et de l'universel, eh bien, cette particularité, dans le moment de la moralité, et plus précisément dans le projet et la faute, va retrouver l'opposition du particulier et de l'universel. C'est-à-dire, rappelez-vous, dans la mesure où j'ai choisi quelque chose, il y a un moment où je peux m'ennuyer, avoir le sentiment d'avoir fait le tour, m'être senti privé de quelque chose. Or, s'être senti privé de quelque chose, c'est une manière de dire que de cette subjectivité-là, je veux m'ouvrir de nouveau à l'universel. Pas le même que tout à l'heure, c'est un universel plus haut, parce qu'on a grandi depuis, on ne veut plus l'universel abstrait, du droit abstrait, mais on veut quand même une forme d'universalité. Or, cette universalité qui fait que moi, je me retrouve dans cette universalité parce que je l'ai voulu et parce que je l'ai recherchée comme telle et parce que je l'accrédite, c'est justement cela, le devoir. Le devoir naît de l'insatisfaction d'une particularité trop présente au sein de la moralité, qui fait que l'expression d'un désir dans le bonheur, ou d'une certaine forme de bonheur, ou d'un métier, ou d'un projet, ou de ce que vous voulez, est forcément frustrante. Curieusement, le devoir naît d'une frustration dans l'élaboration de mes projets. On pourrait le dire comme ça. Je vulgarise, donc évidemment, bon, il y a quelques approximations, j'en ai conscience, mais dans un premier temps, je pense que c'est une présentation qui peut suffire pour comprendre la suite. Je vais être plus précis. Dans le moment où j'élabore un projet personnel en assumant cette subjectivité, j'assume une dimension particulière de ma volonté qui ne peut pas faire autrement que rechercher à sa suite quelque chose de moral, d'universel. Or, pourquoi est-ce que ça se présente comme un impératif ? C'est là où je vous disais que l'explication kantienne n'est pas totalement satisfaisante. Certes, on a un dualisme, celui d'universel et du particulier, mais dans ce dualisme, il y a un point commun. C'est pas l'universel de n'importe qui, c'est pas le particulier de n'importe qui. Et même mon particulier qui a commencé le deuxième moment du droit n'est pas le particulier de n'importe qui puisqu'il est issu de ma déception de l'universel abstrait du premier moment du droit. Bref, le point commun à cette nouvelle contradiction du particulier et de l'universel, c'est moi. C'est ma contradiction à moi. C'est moi qui suis en train de me perdre dans un particulier qui ne me satisfait pas autant que j'espérais et qui recherche un universel pour me satisfaire. Comment pourrais-je désobéir à cette recherche d'universel à partir d'un particulier décevant, puisque c'est moi qui le recherche ? En fait, on a un dualisme, qui est celui de l'universel et du particulier, une contradiction, pour être précis, mais comme c'est issu de moi, c'est un dualisme à partir d'un monisme, en vérité. Et si vous regardez bien toute la philosophie hegelienne, en fait, elle est moniste du début à la fin, parce que tout est à l'intérieur de l'esprit, donc on ne renonce pas à une unité. Mais dans la mesure où c'est vous qui demandez à passer à l'universel, à partir d'un particulier décevant, il n'y a pas de raison que vous ne cherchiez pas à y obéir. Donc ce mécanisme-là, il est bien plus précis et bien plus motivant pour obéir aux lois qu'on se donnerait à soi-même que dans l'explication kantienne, à mes yeux. De ce point de vue-là, Hegel est aussi lecteur de Rousseau. La liberté, c'est d'obéir aux lois qu'on s'est soi-même données. C'est la liberté par excellence, dit Rousseau. Ben oui, à condition de se les être données, j'ai envie de dire en totalité. C'est-à-dire, il faut que je m'y retrouve totalement. Il ne faut pas que je dise le moi nouménal, dont je ne suis pas tout à fait sûr de l'existence et je ne sais pas comment le décrire. Eh bien, ce moi nouménal m'a donné des ordres et donc le moi phénoménal va tendre à y obéir, mais parfois il n'y arrivera pas, etc. Bon, là, moi, c'est moi, voilà, proposition fichtéenne. Je suis moi dans ces deux moments-là. Alors vous voyez très vite objecter, oui, mais alors, pourquoi est-ce que de temps en temps je déroge à mes devoirs ? Pourquoi ai-je la tentation de désobéir aux lois ? Eh bien, c'est ce que dit Hegel, il dit, il arrive que dans cette contradiction, l'un des termes de la contradiction reprenne un peu le pas sur l'autre. Je m'ouvre au devoir à partir du particulier, mais n'oubliez pas que le particulier est déjà l'objet d'une conquête. Donc il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas un combat qui s'orchestre de façon parfois difficile. Mais à tout le moins, nous dit Hegel, même s'il va y avoir des étapes dans cet affrontement du devoir et d'une particularité qui serait plutôt du bonheur, in fine, le devoir est beaucoup plus ouvert sur ce que je cherche qu'une priorité au bonheur. Certes, Hegel complète Kant, mais il reprend cette proposition-là. Et on ne la quittera plus jusqu'à l'État, puisque un des idéaux de l'individu, ce sera de se sacrifier pour l'État. Donc ça, c'est bien le sens du devoir. Devoir patriotique, certes, mais devoir quand même. Parce qu'il saura que son bonheur n'est que trop particulier et qu'il aspire à quelque chose de plus que cela. Donc, on ne quittera plus cette idée-là. Et en même temps, on a véritablement gagné quelque chose en s'élevant au devoir. C'est qu'on s'est affranchi, et là encore Hegel est lecteur de Kant, on s'est affranchi des contingences du bonheur qui font que finalement, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, ce que j'ai choisi comme étant mon métier, ma formation, mon couple, etc., eh bien, ne sont que des moments partiellement déterminés par des contingences. Ça aurait pu être autre chose. Si j'avais vécu plus tard, j'aurais choisi peut-être un autre métier, une autre formation, un autre partenaire. Bref, tout ceci ne me rendait pas totalement libre. Maintenant, j'ai acquis quelque chose qui est que je me suis ouvert à l'universel. Donc, encore une fois, j'insiste parce que on observe ici ou là des lectures assez cavalières de la critique hegelienne de Kant. Il y a un moment kantien absolument indispensable, et l'autonomie est une étape irréductible dans le procès de l'esprit qui cherche à devenir de plus en plus libre. Alors, à plusieurs reprises, je vous ai montré que Hegel était lecteur admiratif de Kant. Évidemment, là, on va tomber dans l'inverse, c'est-à-dire qu'une fois qu'on en a fait l'éloge, et on peut considérer que ce paragraphe 132, c'est le plus grand éloge hegelien de Kant, hein, c'est vraiment l'idée, voilà, le devoir, il est inévitable d'en passer par là, et c'est un moment crucial de la liberté, eh bien c'est dans cette contradiction, puisque je vous disais qu'elle n'était pas totalement résolue, que va se glisser une des formes du mal politique le plus important. Peut-être c'est l'occasion de faire une petite pause. On se retrouve dans 10 minutes. Dans 10 minutes, s'il vous plaît.